Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Et par Laurence. Je reprécise systématiquement. C'est vrai qu'on devrait refaire les jingles. Par Gérald et Laurence. Par Laurence et Gérald, le couple infernal.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Lolo, bonsoir Bernardo, aux manettes.
Bonsoir Laurence, bonsoir Gérald, bonsoir Yvan.
Alors, chose promise, chose due. Ce soir, nous sommes en compagnie de Yvan.
Oui.
Yvan, notre chroniqueur cinéma.
Ivanovitch.
Ouais, qui a plein d'actualités, mais aussi on parlera de... On fera un petit debriefing sur le festival Écran Mix qui s'est tenu début mars.
Mais avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Ben, tu sais, tu as un invité quand tu veux, puisque tu nous chroniques déjà pas mal de...
Oui, je fais partie de l'équipe. Oui,
voilà,
oui,
voilà, tout à fait.
C'est plus il est venu avec son ordinateur.
Oui, carrément, ouais.
Bah oui. Il a bien travaillé.
Ça déconne pas.
Oui, oui, oui. Oui,
parce qu'en fait... Il a plus bossé que moi.
Oui, mais en fait, on a l'impression que c'est informel, comme ça, on va discuter, toi, entre bonnes copines, etc.
Il y a un prompteur.
Voilà, mais en réalité, tout est préparé. Tout est... Non, c'est pas vrai, pas tout à fait. Mais Yvan, il fait les choses sérieusement.
Oui.
Voilà, plus que nous, on va dire, parfois.
Ah bah, plus que moi, c'est sûr. Ce soir, plus que moi, certain.
Donc,
Il a un nouveau pull, non ?
Yvan, un nouveau pull.
La même couleur que ceux habituels.
Nous sommes à la radio.
Ouais. Alors, c'est vrai que Yvan, pour le festival Écran Mix, justement, avait un t-shirt de couleur. Et je lui ai fait remarquer qu'il devrait se mettre de la couleur plus souvent. Ça lui allait très bien.
Ah, j'ai vu sur les photos, oui, parce que moi, donc, je n'ai pas pu être présente cette année au festival.
Mais en fait, c'était un t-shirt que m'a offert Philippe Valois. Il était allé en Inde. Il me l'a offert. Donc, pour la séance Philippe Valois, j'ai mis son t-shirt pour lui faire honneur.
Eh bien, il était très bien, ce t-shirt.
Et c'était plus, un dieu avec une grosse trompe.
C'est un dieu. Tu sais, c'est le dieu éléphant. Oui, oui. Ah, voilà. Et du coup, c'était très coloré et ça t'allait très bien.
Alors, qu'as-tu pensé du festival cette année?
Non, déjà, au niveau du bilan de satisfaction, on peut dire que la fréquentation a été à la hauteur de tes espérances.
Oui,
ou pas.
Oui, oui, oui. Tout, c'était une édition magique.
Ouais.
Voilà. Le festival a ressemblé à ce qu'on imaginait depuis le début. Enfin, on avait un cinéma magnifique. Beaucoup d'invités, une rétrospective avec le réalisateur qui était là. Il y avait un lieu unique, le Comédia.
Il y avait aussi quand même des séances qui se passaient en dehors de Comédia. Il y avait pas
oui, comme d'habitude, oui, oui. Il y avait de la Cité Lumière avec deux séances incroyables. Il y avait les bibliothèques municipales de Lyon. Un très bel hommage aussi à Werner Schroeter au Goethe Institut. Ouais. Séance pleine avec une conférence de Didier Rohde-Bétony sur le cinéaste allemand Werner Schroeter qui était pleine aussi. En fait, c'était très souvent plein. On est très heureux. Il y avait une bonne ambiance. Les gens ont pu bénéficier d'un tarif sympa à 5,70€ avec la carte d'abonnement. Et vraiment, ça faisait grand festival. En fait, on a déroulé le tapis rouge, non pas pour les invités, mais pour les spectateurs.
D'accord.
Voilà. Je pense que maintenant, on est passé dans la catégorie grand festival. On est un des meilleurs festivals de Rhône-Alpes.
De France, allez.
Mais en tout
du
cas,
monde
en
fait, entier.
En festival LGBT, on est peut-être le plus beau aujourd'hui. Le plus beau festival LGBT de France.
Il y avait aussi le ciné Mourgay qui avait des
une projection,
voilà.
En présence de panneaux scoutras.
Projection périphérique en périphérie donc de Lyon.
Et c'était très sympa. C'était une de ses projections préférées à panneaux.
D'accord.
À Mourgay, à Sainte-Foy-lès-Lyon, qui est un cinéma partenaire avec qui on va beaucoup travailler.
Alors, comme tu le rappelais, effectivement, Panos Koutras était là, le cinéaste grec, qui est le cinéaste de Xenia, entre autres. Il était invité d'honneur du festival et il a eu l'honneur aussi, il a eu les honneurs de l'Institut Lumière.
Et oui, pour deux projections. D'abord, une carte blanche, un film grec, un grand classique, Stella, femme libre, de 1955. Qui est un film très intéressant puisque réalisé par un gay, donc on voit en quoi elle se comporte comme un homme, comme un gay en fait dans le film. Et puis ensuite Xenia. Et là donc il y avait Thierry Frémaux donc qui était venu spécialement des États-Unis pour revoir Panos. Et Panos donc a eu la surprise de voir une plaque à son nom inaugurée sur le mur des cinéastes.
Lorsque elle ne savait pas.
Non,
il ne
savait
pas.
C'était une surprise. Oui, jusqu'à la dernière seconde, c'était la surprise.
Ouais.
Donc, il fallait qu'on le fasse passer par d'autres endroits pour surtout pas qu'il voie le mur, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, tout réalisateur qui vient à l'Institut Lumière, sur le lieu de naissance du cinéma, a une plaque sur le mur des cinéastes, rue du premier film, qui a été rebaptisé il y a quelques années rue du premier film. Je me rappelle plus comment elle s'appelait avant. Et donc, tout cinéaste qui vient à l'Institut Lumière, qui vient sur le lieu de naissance du cinéma, à sa plaque. Il s'y attendait pas du tout, il était très ému.
Oui, c'est là qu'a été tourné le fameux, en fait d'ailleurs, le centenaire.
Les 120 ans du
120 ans, voilà. La fameuse sortie des usines Lumière en 1895.
C'est ça.
Voilà, qui est considéré comme le premier film de cinéma.
Oui, c'est ça, la première mise en scène.
Et l'Institut Lumière est construit autour, je dirais. Il y a la propriété des Frères Lumière qui a subsisté, dans lequel se trouve le musée du cinéma. Et puis,
Il y a le hangar
qui a été conservé, en fait, puisque l'usine des Frères Lumière n'existe plus, parce que c'était le hangar des usines Lumière. Et le hangar lui-même a été conservé, puisque c'est ce hangar qui servait de décor.
C'est magnifique, cet endroit.
Voilà. Ah bah la Statue Lumière, je suis un fan.
Mais on s'y sent bien, quoi. C'est vraiment le trésor national de Lyon. On est très fiers de la Statue Lumière. Et puis, on s'y sent bien. Et à la séance de Xenia, il y avait 50 personnes assises par terre, quand même. C'était une séance incroyable.
Oui, à la Statue Lumière, oui, c'était bondé. Ouais.
Tu étais ?
Non, j'étais pas, mais je sais, j'ai vu les photos.
Il y avait 50 personnes assises par terre. C'était un monde fou. C'était magique. Tout le festival a été magique comme ça. Une bonne ambiance. Beaucoup d'invités, enfin, c'était...
Et Panoscoutra, ça a été ému et satisfait en même temps de tous ces honneurs qui lui étaient...
D'abord, c'était sa première rétrospective intégrale en France, donc il était très fier et très content. Et puis même les spectateurs, beaucoup de spectateurs ont découvert son univers. Et en plus, on a passé un film totalement inédit en France, son deuxième film qui s'appelle Real Life, qui a beaucoup plu.
Ouais.
Qui a beaucoup plu et lui était très content de le revoir aussi.
Et comment se fait-il que ce film est resté inédit en France ?
Parce qu'au dernier moment, les distributeurs n'ont pas voulu le sortir. Donc c'est un film qui a fait le tour des festivals, mais pas en France.
Il date de quand celui-là ?
2004, donc 10 ans à peine.
Mais c'est vrai que Panos s'est beaucoup fait connaître par Xenia, mais avant, c'est lui qui avait réalisé le kitschissime, l'attaque de la moussaka géante, qui est considéré à l'égal de Ed Wood, des films de Ed Wood,
comme
un des summums du film kitsch.
Et Camp. Parce que on voit donc des travestis courir dans les rues d'Athènes poursuivis par une moussaka géante qui veut les écraser.
C'est ce qui a le plus intéressé à mon avis, Yvan.
Comme le dit très bien dans notre catalogue Didier Rodbétoni, avec les savants en blouse rose qui sont des papouilles, c'est complètement camp et kitsch, mais aussi quelque part derrière. C'est un film de colère sur la Grèce de l'époque, puisque le film est aussi une critique des médias, une critique de la politique, et c'est pas qu'une grosse connerie, c'est aussi un film profond en colère, et c'est un film qui a fait le tour du monde.
C'est un film des années 90, celui-ci.
99. Premier film culte.
Mais je pense que la plupart des gens qui connaissent ce film et qui disent, qui pensent que c'est un film culte, je pense qu'ils connaissent pas le message caché de...
Subliminal.
Ouais. Non, mais est-ce que tu dis que c'était un message...
C'est le genre de film qu'on regarde entre copains et tout, mais bon, il faut bien le regarder. Ouais. Et c'était bien d'avoir le réalisateur là. Et puis, j'oublierai jamais l'ouverture de séance, parce qu'il a expliqué qu'il a eu beaucoup de difficultés pour financer le film. Et il a dit, on voulait pas financer le film parce que j'étais trop folle. Donc c'est très drôle, parce que finalement, il y a même des préjugés auprès des homosexuels à qui, comme les femmes, on empêche d'accéder au métier du cinéma.
Et Panoscoutras, en plus, parle très bien français, puisqu'il a fait partie de ses études. Il a étudié en France,
à Paris. Il a fait la Sorbonne et il a fait sa thèse sur Douglas Sirk. Voilà, Douglas Sirk, grand cinéaste mélo américain des années 50, grande star de tout cinéaste homosexuel. Et il a fait sa thèse sur Douglas Sirk.
D'accord. Donc Panos était là et puis...
Et c'était passionnant, puisqu'en plus il a eu des cartes blanches, il a présenté Johan de Philippe Valois en sa présence. C'était la femme libre, on a vu tous ses films, il était là tout le temps, il y avait une super ambiance.
Bien. Alors justement, tu évoques Johan. Johan faisait partie de la programmation, parce que c'était, donc, comme tu le précisais à l'instant, une des cartes blanches choisies par Panoscoutras. Alors Johan, je sais pas si tu l'as vu toi, Johan.
Non.
À l'origine, le titre du film, c'était Johan, journal d'un homosexuel, c'est ça ?
Carnet intime. D'un homosexuel.
Voilà. Mais le titre, après, a été évacué. Il a gardé Johan, été 75, je crois.
Voilà, mon 75. Été 75.
Pour la distribution, mon été 75. Mais il est quand même sorti à l'époque, donc en 75, sous le titre Carnet intime.
D'un homosexuel, oui, oui.
Et il est sorti dans les cinémas underground à l'époque.
Oui, il est sorti à trois salles à Paris, notamment dans la salle de René Château. Il est sorti très certainement dans la salle de Frédéric Mitterrand.
Nous ne voyons pas rire. Freddy, nous t'embrassons si tu nous écoutes.
Le film a été sélectionné dans une sélection de Cannes qui n'existe plus,
ouais.
qui s'appelait à l'époque Perspective du cinéma. C'était sur le cinéma expérimental un petit peu. C'est un film passionnant, c'est un film expérimental. Premier film ouvertement homosexuel français. Il y a eu des films avant ce film-là qui traitaient d'homosexualité, comme Les Amis de Blin, qui est un très beau film, 1971, mais dans lequel l'homosexualité était cachée.
Les amitiés particulières, est-ce que tu... Le film, pas le livre.
Ah, moi j'aime beaucoup le film.
Voilà. Mais est-ce que le film, tu le classerais parmi un film homosexuel?
Ah oui, et puis même presque pédophile, je dirais aussi. Hein. Mais non, c'est un très beau film aussi, Les Amitiés Particulières.
Voilà. Ouais. Mais Joanne, la différence, c'est que c'est un peu un documentaire, un film à la fois.
Ah, mais c'est le premier film qui dit les choses telles qu'elles sont. C'est un film quasi reportage où on voit des vraies dragues aux Tuileries, des vraies dragues en plein air, des dragues dans les pissotières. C'est là où on parle pour la première fois de poppers, où on parle de Cochrane, où on parle de sadomaso, où on voit un double fist quand même. C'est un film aussi, c'est un vrai film de cinéma parce que c'est une vraie réflexion sur le cinéma. C'est un film sur Joanne, donc un homme qu'il a aimé mais qu'on ne voit absolument pas dans le film, qui est joué par plein d'autres personnages. C'est une vraie réflexion sur le cinéma et c'est aussi un reportage, c'est un film extraordinaire.
C'était tourné avec, peu de moyens, mais par contre, avec une caméra quand même. Mais aussi, il y avait des techniciens sur le tournage. Je veux dire, il n'était pas tout seul, Philippe Valois.
C'est un film de copains, en fait, voilà. Ouais. Donc il avait des amis techniciens qui l'ont aidé. On voit
Parce qu'il y a quand même. Il y a quand même une certaine, recherche quand même. Je veux dire, comme on disait, Joanne, toi, c'est un film en tableau plutôt. C'est différents tableaux.
C'est un film d'esthète, ouais.
Voilà. Ouais. Mais il y a une très jolie photographie, par exemple. Et quand on voit des photos du film, c'est vrai que beaucoup de ces photos ressemblent un peu à des tableaux. Donc, il y avait quand même une recherche esthétique. C'était pas seulement fait comme ça à la va-vite. Il y a quand même une recherche, c'est un peu écrit. C'est écrit, d'ailleurs.
Oui, c'est écrit. Valois est un magnifique conteur. Hein. Il y a une voix off, il parle. C'est merveilleusement raconté. Chaque image, on la prend, on l'agrandit, c'est un poster. C'est une œuvre graphique magnifique. Il a travaillé avec un très grand chef opérateur qui s'appelle François Aboug, avec qui il a fait la majorité de ses films. Et puis, il est entouré d'artistes. C'est un film d'artistes aussi. Il y a dedans, on voit Pierre de Pierre et Gilles, Pierre Comois.
Avant son époque, Pierre et Gilles, d'ailleurs.
Oui. Il joue dans le film. Il fait partie de l'équipe. Et c'est un film d'artiste. Et en fait, il raconte sa vie. Lui, c'est quelqu'un qui fréquentait le milieu artistique, Valois, dans les années 70. Donc, il parle de son univers. Donc, c'est un univers d'esthète et aussi un univers de drague, sentimental, de baise aussi.
Alors, je dirais, pour le public averti, Philippe Valois est moins connu. Et en tout cas, son Joanne, dont tu parles, que tu considères comme le premier grand film qui pose le jalon du cinéma homosexuel en France, est beaucoup moins connu que le film que Razdep. Que Razdep, qui est aussi un film de tableau, en fait. De Lionel Soukaz et de Guy Hockengem.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et Razdep, pour le public averti, je dirais, fait plus office de, justement, film historique de l'histoire homosexuelle cinématographique française, dans ce sens, en plus, qu'il prenait différents tableaux qui étaient censés représenter différents types d'homosexualité à travers différentes époques, en plus.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Ça commence avec une reconstitution de la vie du baron von Glodden.
Voilà, le fameux baron von Glodden qui allait en Sicile photographier...
des jeunes pêcheurs.
Des jeunes pêcheurs en situation, je dirais, un peu mythologique, tu vois, à moitié dénudé, Apollon et compagnie, style grec, tu vois. Et donc...
1979, alors c'était... Alors,
Se finit au jardin, dans une drague au jardin des Tuileries, d'ailleurs, parce que la dernière partie, ça passe aussi au jardin des Tuileries, à Paris, qui était un lieu de drague très connu, évidemment, très important, qu'on voit aussi dans le film Joanne. Mais Joanne, c'est 75, Razdep, c'est 80.
79, ouais.
79, voilà. Et Joanne était avant Razdep.
Ah oui, c'est le premier. Pourquoi est-ce que...
Qui était avant, donc la poule ou l'œuf, c'est ça le problème.
Ah ben c'est Valois le premier.
C'est Valois là.
Et même il avait commencé même l'année d'avant avec un film qui s'appelle Les Phalènes, qui agrémente le livre La Passion selon Valois.
Est-ce que tu penses que Razdep a quelque chose à voir avec Johan? Est-ce qu'il connaissait le film par exemple et qu'ils s'en sont inspirés?
Oui. En fait, si vous voulez, il y a deux grandes écoles dans le queer français. Il y a l'école Valois, l'école Soukaz. L'école Soukaz est beaucoup plus politisée. C'est quelqu'un qui est vraiment très engagé dans l'extrême gauche. C'est un vrai militant. Valois n'est pas du tout militant. Valois est un rêveur, c'est un artiste, c'est un danseur, c'est un conteur.
Il est un esthète, quoi.
Oui, voilà, c'est un jouisseur aussi, c'est quelqu'un de très sentimental, et ses films ne sont jamais politisés. C'est pas du tout son truc, lui, c'est voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a, et puis après il y a l'école militante. C'est vrai qu'il y a plus de gens qui beaucoup plus d'étudiants, même à l'international, qui travaillent sur le travail de Soukaz que sur le travail de Valois. Valois, c'est le grand oublié du cinéma français, et c'est bien dommage puisqu'on voit que son film en fait est le chaînon manquant entre plusieurs films. Hein. Sans Valois, il n'y aurait peut-être pas eu Rémy Lange. Si, puisque Rémy Lange ne connaissait pas Valois quand il a commencé. Mais il y a quand même une filiation sous-jacente.
Ouais.
Et parmi d'autres, hein, même du Castel et Martineau, voilà, c'est le grand oublié du cinéma et c'est vraiment dommage. Donc il y a deux écoles, une école politique et puis une école plus de rêves, de danse, de joie. Et d'ailleurs, quand on voit Joanne, c'est un film très testostérone avec des beaux mecs et tout. On voit vraiment comment étaient les mecs à l'époque, musclés, virils et tout. Et puis il y a deux personnages féminins absolument inoubliables. Il y a la fameuse Marie-Christine qui sniffe du poppers. C'est elle qui amène nos poppers aux mecs quand même. Et puis qui rigole en cascade. Elle est absolument à la fois irritante et très drôle. Et puis il y a la maman de Philippe Valois avec une scène de coming out tout à fait étonnante où un des voyous qui joue le rôle de Joanne, offre des fleurs à la maman de Philippe, et Philippe lui pose des questions à travers la caméra par rapport à son homosexualité.
Et Joanne, je dirais, resterait encore un peu d'actualité, dans le sens où, à l'époque, il était un peu subversif, il était subversif complètement. Il était aussi, dans la continuité de tous les mouvements des années 68, de 68. Mais je pense qu'il serait à nouveau subversif si on le rediffusait vraiment, parce qu'il y a comme une sorte de retour à une certaine morale, y compris finalement chez les homos. Et ce qu'on voit chez Johan, on nous montre quand même de la baise tous azimuts, du sadomasochisme, la drague au jardin des Tuileries, tout ce que beaucoup d'homos maintenant voudraient un peu... Voilà, nous, on est des gens bien gentils, finalement. Il y en a beaucoup qui sont dans cette optique-là. Et Johan, c'est gênant pour une certaine catégorie d'homo qui voudrait justement...
Mais du coup, il n'y a plus de drague au Jardin des Tuileries ?
Oh, moi, mon Bernard. Non, mais je m'adresse aux Parisiens. Mais bon, maintenant, il est lyonnais depuis tellement longtemps.
Il y a longtemps que j'y ai pas mis les
voilà. Non, mais moi, j'y vais, mais que le jour, tu sais, quand je suis à Paris. Et j'ai vu la fête foraine. J'ai vu, mais il faudrait peut-être aller le soir dans les bosquets. Mais maintenant, il y a tellement de lieux à Paris où on peut se rencontrer. Que avant, c'était plus anonyme, c'était plus caché. Donc, le Jardin des Tuileries. Voilà. C'est des lieux qui sont en perdition, tout ça.
Mais par contre, donc, c'est une époque.
Mais je veux dire, Johan reste subversif à notre époque, même parmi les homosexuels. Je veux dire, qui voudrait montrer une homosexualité gentille, bon enfant, familiale.
Ah bah oui, tout à fait, oui.
Parce que c'est quand même hard, hein, Johan. Mm-hmm.
C'est très cuir, très cuir.
Pardon. Il expliquait d'ailleurs que son film était classé porno quand il est sorti.
Alors, pour éviter la classification porno, il a dû couper certaines séquences,
voilà.
Notamment la séquence du double fist-fucking,
voilà.
La première séquence de fist-fucking dans l'histoire du cinéma, et puis beaucoup de scènes de sexe en érection.
Tu as vu ce que tu as loupé, là.
Et qui sont très belles. Il n'y a rien de vulgaire dans ce film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'érection, mais elles sont très graphiques, elles sont très belles.
Ouais.
Il montre simplement des gens en bonne santé. Il n'y a rien de.
Il faut préciser que c'était un film avant, en plus, le VIH, le sida.
Ah ben oui, 75. Et pour éviter la classification X, il est obligé de couper les zizi. Voilà,
ouais.
Donc le film est sorti...
Sans zizi.
Sans zizi. Et puis en 2010...
Quelle tristesse.
Et puis en 2006, quand il veut faire un DVD de son film, il fait des recherches. Et puis un jour, il téléphone au CNC et ils lui disent on a retrouvé une petite bobine. Et une petite bobine dans une cabine de projection, il y a marqué Johan, c'est peut-être à vous. Donc il récupère la bobine et puis il voit tous les petits zizi,
enfin
les petits,
c'est génial,
les gros zizi qu'il avait coupé et qu'il a réintégré donc dans la version intégrale.
Ouais.
C'est génial.
Et c'est vrai qu'à l'époque, le film, les gens devaient quand même y aller un peu. Ça avait un côté sulfureux d'aller le voir un peu crapuleux quand même. On avait de rentrer dans ces petites salles, tu vois, d'aller voir des films comme ça où on allait voir des choses extraordinaires finalement.
Mais c'était du cinéma d'exploitation, hein. Ces films passaient dans les mêmes salles où on passait les films de Bruce Lee ou des films de Kung Fu. Mais oui, c'est vrai. mais lui, voilà, ce qui est très intéressant chez Valois, c'est que lui, il a voulu déghettoiser tout ça. C'est le premier à avoir parlé ouvertement d'homosexualité, d'avoir ouvert en grand les fenêtres de l'homosexualité et d'avoir montré des hommes qui s'aiment au grand jour. C'est complètement révolutionnaire en fait. Et son film suivant, qui est un grand mélo, Nous étions un seul homme, lui vraiment est un...
C'est le film qui a eu le plus de diffusion, je crois, de distribution, qui a été le plus grand public, peut-être.
Mais il est resté à l'affiche 10 ans, je crois, à Paris.
Et puis, il a été diffusé peut-être plus largement que Johan aussi, à l'époque de sa sortie.
Oui. Disons qu'il est resté 10 ans à Paris. Hein, et puis, c'est vrai qu'il a fait le tour du monde. Hein. Ouais, parce que c'est un grand film classique. Un peu à la Douglas Sirk, hein, encore un. Mais qui, voilà, ce sont deux hommes qui vont s'aimer au grand jour. Et en cela, c'est aussi révolutionnaire. On est en 1978. Donc c'est vraiment un cinéaste très très important. C'est le grand oublié du cinéma français et c'est vraiment dommage. Et on voit que toutes les séances qu'on fait de Joanne, sont pleines. Ouais. Il y a eu beaucoup de succès au Festival d'écran mixte. Et puis là, je reviens de Paris.
Voilà, tu avais une carte blanche alors par le cinéma Le Brady, c'est ça ?
Voilà, donc le...
Pas le cinéma Le Brady, mais...
Le ciné-club Le Septième Genre,
voilà.
Qui existe depuis 2 ou 3 ans, qui était organisé par Anne Delabre, qu'on avait fait venir au festival l'année dernière. Elle organise tous les mois au Brady une séance de ciné-club liée à l'homosexualité. Des films du patrimoine et avec tout un travail de décryptage de l'image, tout un travail de absolument passionnant et son ciné-club est toujours plein. Et là, elle nous a donné carte blanche. Donc nous, on en a encore profité pour montrer du Valois parce que c'est un film qu'il faut montrer. Il faut montrer du Valois. Personne ne le montre, il faut le montrer. Et encore une fois, la séance était tellement pleine qu'ils ont doublé la séance avec une autre salle qui a passé le film en simultané. En fait, voilà. Et pour le débat final, tout le monde est allé dans la grande salle. C'était une grande séance parisienne. Il y avait beaucoup de monde. On était très heureux. Il y avait Jeffrey Jordan qui était avec moi, qui a beaucoup aimé le film aussi. Et voilà.
Producteur.
Mais moi, je pense que j'aimerais que Johan ressorte au cinéma, tout comme Nous étions un seul homme.
Et en DVD, on peut le voir, on peut le trouver. Johan.
Oui, c'est un rupture de stock, mais oui, on peut le trouver. Mais là, il va y avoir un livre qui va sortir sur Nous étions un seul homme, écrit par Didier Rodbetoni. Et dans lequel il y aura le DVD de Nous étions un seul homme.
Très bien.
En tout cas, voilà, c'est le grand chaînon manquant. Et, voilà. Et moi, j'aime profondément ces cinéastes francs-tireurs qui assument complètement leur identité. Je citais Rémi Lange, qui est quelqu'un de passionnant. C'est un cinéaste qui ressemble à aucun autre, qui fait vraiment du cinéma expérimental et intéressant, comme Valois, comme beaucoup d'autres, et qui assument qui ils sont et qui réfléchissent au langage cinématographique. Et ça, j'aime ça.
D'accord. Eh bien, écoute, on va se faire une petite interruption musicale en rapport aussi avec un événement auquel tu as assisté à Paris. On va écouter ce soir, ça va être très beau, oui-esque. Comme,
oui, très bien.
Voilà, programmation musicale. Et on va écouter en tout cas le premier titre qu'on a prévu de passer de Bowie, on va en passer d'autres, c'est Starman.
Let the children lose it. Let
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et nous voici de retour avec ma petite Lolo, mon petit Bernardo.
Bonsoir.
Bonsoir, Lolo. Et Yvan, notre chroniqueur cinéma.
Et Uncle Benz, qui nous parlait il y a deux minutes.
Uncle Benz.
Oui, pourquoi la, Uncle la Benz? Voix de Radio Pluriel, c'est Uncle Benz.
Ah oui. C'est vrai. Et pas que, hein, je crois qu'il fait aussi d'autres, mais je sais plus, hein, mais d'autres acteurs aussi, d'autres acteurs américains. Dont il double notamment Morgan Freeman, je sais.
Oui, oui,
en français.
Ça, oui.
Ah, mais voilà. Oui.
Oui, c'est lui. C'est lui qui nous fait les jingles. Voilà, donc, pour revenir à nos petits moutons. Nos petits moutons, donc, du festival Écran Mixte. Alors, on a parlé un petit peu, donc, du festival, de la réussite du festival de certains, de Panos Koutras, qui était invité d'honneur. On a parlé de Johan, que tu as présenté aussi à Paris. Et puis, tu avais parlé, toi, Laurence, justement, ici, parce que tu as fait un article dans l'hétéroclip de Stand.
Oui.
Le film de Jonathan Taïeb.
L'excellent Stand.
L'excellent. Alors, oui. C'est vrai que moi, si je parle à titre personnel, parmi deux œuvres que j'extrairais particulièrement, qui m'ont vraiment touché du festival, le plus touché, c'est Stand et Vivant. Alors, c'est pas exclusif, hein, y a d'autres œuvres que j'ai vues, que j'ai bien aimées, mais Stand et Vivant, c'est vraiment, ça a vraiment été vraiment un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que ça a été chargé d'émotions, quoi. Alors, Stand, tu en avais parlé. Tu en avais très bien parlé d'ailleurs, parce que quand je regardais le film, je disais, ah ben oui, voilà, c'est ça, elle disait ça, Laurence, ben, c'est vrai, la caméra au point, par exemple.
Ouais.
Bon, c'est vrai qu'il faut pas avoir mangé avant, mais en même temps...
Tu confirmes.
Voilà.
En même temps, toute la salle a confirmé.
Toute la salle a confirmé. Et aussi les femmes de ménage après. Non. Non, mais en fait, c'est vrai que ce procédé caméra au point, qui n'est pas nouveau... Mais en tout cas, permet d'entrer pleinement dans le film, enfin d'être au milieu en fait du film. On est comme un plus qu'un spectateur, on est carrément témoin. On suit tous les
on
protagonistes.
On participe vraiment à l'enquête, à l'histoire.
Voilà. Et la charge émotionnelle est donc très forte. Et quand il y a des angoisses, il y a beaucoup d'angoisses dans ce film, notamment quand il cherche son petit copain. La scène dont tu avais parlé, il est perdu et il le cherche. C'est vrai que ça s'apparente à un film d'horreur.
Ouais, ça fait peur.
On a peur. On a vraiment très peur. Et on est là à côté. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va lui sauter dessus. Ouais. Il est là à la recherche de son petit ami qui a disparu. Enfin, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que Stan...
On entend juste les crac des pas dans la neige, là.
Ah oui, c'est assez puissant. Ça a un côté un peu Blair Witch, tu vois, à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le film, c'est aussi une représentation un peu de ce qui se passe en Russie, donc par rapport à l'homophobie prégnante dans la société russe et qui n'est que renforcée et épaulée, je dirais, par les lois homophobes de Vladimir Poutine et de sa clique.
Et de son orchestre.
Ouais. Et de son orchestre homophobe, de son aristocratie rapprochée, je dirais, qui est là pour faire des lois qui sont souvent que nous considérons comme liberticides la plupart du temps, et notamment pour l'homosexualité, puisque bon, on le sait, il y a une loi qui interdit la propagande homosexuelle en Russie, etc. Et le film, lui, il se plonge au cœur pas de l'événement, mais au cœur de la réalité que peut représenter finalement l'homophobie latente de ce pays où il y a un message homophobe qui émane de l'État et où elle est relayée par des groupes locaux qui s'en prennent homosexuels, qui les torturent, qui les fait tomber dans des pièges, qui les torturent.
Les humilient. Ouais.
Les humilient, voilà. Mais il y a dans ce film, impossible de dire la fin, mais il y a quand même un retournement de situation extraordinaire quand même. Extraordinaire, parce que là, c'est scotchant.
Où le titre trouve... Ah oui, oui. Et puis la dernière image du film, c'est le titre du film.
Oui,
le
voilà.
Le titre du film, Stand, ça veut dire debout.
Ouais, ouais. Mais on ne dira pas pourquoi il reste debout.
Ah oui, non, surtout
il
pas.
Il reste quand même debout.
Surtout pas.
Mais c'est fantastique, parce qu'il y a un retournement de situation hitchcockien, je dirais.
Alors, c'était une avant-première. Il y avait le réalisateur et son scénariste.
C'est un Français, le réalisateur, hein, Jonathan
Taïeb. Bien sûr, c'est son deuxième long métrage. Je n'ai pas vu le premier.
Ouais.
Il est très jeune, il a 27 ans. Et en fait, l'idée vient de son scénariste qui a une petite amie ukrainienne. Et il revenait d'Ukraine, il était absolument épouvanté par ce phénomène. Et il est allé voir Jonathan, donc il lui a dit on va faire un film dessus. Et donc, c'est un film qui a été fait dans l'urgence, qui a été tourné en 11 jours, sans argent. Et moi, j'aime ça. Que ce soit Vivant, que ce soit Stand, c'est du cinéma, justement, de c'est pas des gens qui vont attendre. Voilà, on va pas attendre qu'il y ait des financements, on y va. C'est comme Johan, hein, quand il a été tourné. Johan est en prison, c'est pas grave, on y va, on fait le film. Donc là, ils sont partis avec son équipe, ils ont fait un film, je trouve magnifique, voilà, qui est très fort, qui va sortir en salle le 17 juin. Donc on en reparlera encore d'ici là. Le film va faire plusieurs avant-premières. Là, je sais qu'il est présenté à Nice dans quelques semaines, je crois, ou quelques jours. C'est un film important. Il y avait le réalisateur Jonathan Taïeb et son scénariste. Et je crois que le public a beaucoup aimé.
Oui. Il y a une tension permanente. On est comme une corde tendue en permanence.
Ah oui, bien sûr.
Et puis le coup de caméra qui est extraordinaire, où tout n'est pas montré, mais où il y a une suggestion permanente dont résulte une tension, une angoisse, la scène. On peut parler de la scène de départ, puisque c'est le point de départ du film. C'est effectivement une scène où le couple d'hommes rentre et puis sont confrontés à une scène qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, très violente. Et justement, c'est ça l'intérêt de cette caméra qui ne montre pas tout, mais dont on devine la violence de la situation, où quelqu'un est en train de se faire agresser dans la rue. Donc,
et eux sont en voiture.
Et eux sont en voiture.
Et nous, on n'avait que dans la voiture. Le spectateur est pris en otage dès la première.
Voilà, c'est ça. On est dans la bagnole. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La victime est présente à un seul moment, un moment très furtif, où elle tape sur la voiture. On voit comme une main ensanglantée. On a l'impression qu'on voit une main ensanglantée sur la voiture.
Je suis même pas sûr.
Mais moi non plus.
Ouais.
Mais
c'est comme Rosemary Baby.
C'est pareil. Exactement. Très bonne idée.
Et en fait, Taïeb, je trouve c'est vraiment un vrai film de suspense, comme certains réalisent des films policiers ou des thrillers. Là où il a tout compris, c'est que c'est en montrant le moins possible qu'on fait le plus peur aux gens.
Quand on a du talent, on n'a pas besoin de beaucoup de sous pour provoquer des émotions aussi fortes que les films à grand spectacle.
Exactement.
Voilà. Ah ben la preuve, oui. Et c'est ce qu'on défend aussi à Écran Mixte, les artistes comme ça, bien sûr.
On a adoré, évidemment. Et puis, donc, sur le 17 juin, on aura l'occasion d'en reparler. Il faut aller le voir.
Moi, j'espère surtout que des médias plus importants et nationaux parleront du film, qu'il aura une couverture médiatique importante.
Ben oui, oui, oui.
Que ce soit pas juste relayé par des médias spécialisés.
Moi, j'espère que le film, ne serait-ce qu'en Rhône-Alpes, nous, on va faire en sorte que le film soit vu en Rhône-Alpes et qu'il circule au sein des salles à RSC. Il faudrait que le film il ait une circulation de toutes les salles à RSC, ça serait super. Hein. Comme ça, il pourrait s'installer dans la durée, être vu et accompagné de débats. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait SOS Homophobie qui était là. Qu'on fait un super speech.
Oui, qui ont introduit le film, je dirais. Avant le film, ils ont expliqué la situation, d'ailleurs, russe.
Et notamment. Puis même de l'homophobie.
En général.
En général, ils ont remis les points sur les i, quoi. Je veux dire, ils ont été plus que formidables.
Ouais. Donc, le deuxième film dont je tiens à parler, mais on en a déjà parlé beaucoup à l'antenne, parce qu'avec Bernard, quand on l'a vu, on a été retourné, hein, mon petit Bernard. On a toujours du mal à s'en remettre, d'ailleurs. Donc, c'était Vivant de Vincent Boujon, qui en plus, bon, Vincent Boujon est lyonnais, il est même natif de Saint-Priest, il est natif de la commune de Saint-Priest, il est resté toujours sur Lyon, et spécialiste du documentaire, court, de format court en général, et là, pour la première fois, il fait un format long avec Vivant, qui n'était pas prévu au départ. Alors, il nous a expliqué que c'était un projet qui lui avait été proposé par Aide, projet auquel il a adhéré tout de suite. Donc, il s'agit de 5 personnes séropositives, 5 hommes séropositifs, tous homo, qui décident d'aller au-delà même de leur propre, de la maladie, de leur quotidien, pour affronter la vie, et puis aller au-delà pour assurer la primauté de la vie même. Ils ont décidé d'aller de vivre un challenge, de se mettre en abîme même, en faisant donc un apprentissage, la chute en parachute. Voilà, la chute en parachute.
Un saut en parachute.
En saut en parachute. Mais un vrai saut, hein. Oui. C'est-à-dire, ils montent là-haut et puis après, hop, on les lâche et pff, ils tombent. Des trucs qu'ils ne connaissent absolument pas, quelque chose qui leur est complètement inconnu. Donc, ils sont vraiment dans l'inconnu. Et ils arrivent là, sur l'aérodrome. Donc, ça a été filmé à Corba. Et à l'école, à l'école de parachutisme de Lyon. Et donc, c'est vraiment un film rhône-alpin, en plus, lyonnais, rhône-alpin. Et là, on assiste. Donc, Vincent Boujon les a filmés pendant une semaine, hein, caméra au point aussi. Et on assiste à leur, à leur confrontation à ce monde dont ils ignorent tout.
Et puis, chacun va se livrer aussi, rapport à la maladie, au corps, au sexe, au couple. Et Vincent Boujon est un cinéaste d'une extrême délicatesse. Et en plus, il les laisse parler, quoi.
Ouais.
Il pose sa caméra et puis chacun se confie de manière très douce, c'est vraiment... Alors, C'est un film à l'image de son metteur en scène. C'est quelqu'un de, d'extrêmement délicat, d'extrêmement fin, et je trouve le film très fin. Mais lui, il a voulu parler de ses repos de manière différente. On parle toujours de ses repos toujours de manière un peu compassionnelle ou pas. Lui, il a voulu en faire des héros. Ouais. Et des héros d'un film d'aventure, d'un film de suspense et d'une comédie. Parce que franchement, on rigole aussi. Parce qu'il y a des personnages, il y en a un notamment, c'est un vrai zigoto, enfin c'est un vrai hurluberlu, il est extraordinaire.
Et en plus, il est sud-américain, donc il a un petit accent rigolo. Matteo,
oui. Il s'appelle. Brésilien, je crois.
Oui, je sais plus de quel.
Il est très drôle, hein. Franchement, il a un vrai talent comique. Et il a la tête en l'air, enfin, c'est vraiment un peu le Gaston Lagaffe. Il ouais. est vraiment. Et puis c'est aussi, c'est un film d'aventure et puis un film suspense parce que est-ce qu'ils vont y arriver, sautera pas. Et il y avait une ambiance incroyable dans la salle. C'était la séance de clôture. C'était le film parfait pour une clôture. Il y avait une vraie communion entre toute la salle. Je pense que c'est un film qui marche vachement bien quand la salle est pleine. Hein. Puisqu'on ouais. était tous ensemble, quoi. On était avec eux sur à l'aérodrome. Et chaque fois qu'il y en a un qui sautait. Tout le monde applaudissait. Ouais. Tu te rappelles de ça
c'est... Puis on s'attache au personnage. Alors c'est vrai qu'il y a des... Voilà, on s'attache... Chaque personnage en plus a une personnalité bien ciblée, je dirais. On parlait de Matteo, qui est ce côté un peu farfelu, un peu fofolle, on dira.
À un moment donné, à un moment donné, ils sont en train d'essayer des parachutes et lui, il fait la folle, il fait des caps.
Oui, oui, voilà. Non, mais c'est vraiment, il y a des passages très drôles et en même temps, c'est très émouvant. C'est très humain aussi, et puis c'est des gens qui vont vraiment au-delà de tous les préjugés, je dirais, de leur propre même personne, parce que personne n'aurait jamais songé un jour à faire un saut en parachute, et ils se sont dit que c'était un challenge qui valait la peine pour...
C'est un message d'espoir.
Oui, ah bah oui, complètement. Oui.
Ah bah c'est un film qui porte bien son titre. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et en fait, Vincent Boujon disait, puisqu'il est intervenu aussi avant et après la séance... Notamment après, il y a une séance de questions, tu sais. Après la standing ovation. Il disait quand même que même si le film, ta film reportage où ils ont pu se livrer, il y avait quand même un fil conducteur. Il avait parlé avant avec les comédiens, mais on a du mal, hein, entre comédiens ou pas, ils sont filmés, mais c'est pas vraiment de la télé-réalité non plus, parce qu'il y a un conducteur, il disait qu'il avait quand même encadré, il avait parlé avec eux, et il savait où il voulait les amener, il savait avant, lui, ce qu'ils allaient dire. Il y avait comme une sorte de scénario qu'il avait fait dans sa tête, et il a amené un peu ses acteurs aussi, à un moment donné, à des moments, à aborder les sujets qu'il avait lui-même abordés avec eux avant de réaliser le film. Et après, c'est comme 20 heures de tournage, hein, je crois. Il n'y avait pas beaucoup
de rush.
Donc après, il a monté son film en fonction de chacun des personnages. Donc il a insisté sur certains personnages, sur le saut en lui-même, sur d'autres personnages, sur la peur, l'avant-saut. Bon, on ne voit pas le saut en lui-même, mais on voit la terreur de la personne sauter. Mais c'est vrai que dès le premier saut, le public est enthousiasmé. Il réussit, il y va. Il va donc au-delà de lui-même, il le fait, puis ensuite il le fait très bien. C'est celui qui techniquement réussit le premier saut, le meilleur, et la salle est applaudie, quoi. Et le plus amusant, c'est qu'il y avait des parachutistes, justement, de l'école de parachute de Lyon, qui étaient dans la salle.
Bah, c'était vraiment une soirée grand mixte, oui, c'était oui, tout le monde là.
Hein. Ah oui, il y a tout le monde. Et il y a aussi la personnalité de l'instructeur, celui qui leur apprend.
Richard.
Qui est extraordinaire, parce que Richard disait...
D'abord, il est très sexy.
Il est très sexy.
Ce qui ne gâche rien.
Lui-même a dû aller au-delà de ses propres préjugés, ouais, parce ouais. que c'est... il ne connaissait très peu... la maladie, il en avait entendu parler comme tout le monde, oui. mais ne connaissait pas de personne véritablement séropositive. Et l'homosexualité, pour lui, c'était quelque chose d'un peu abstrait, quand même, surtout dans le milieu dans lequel il est. Et il disait, même moi, j'avais peur, j'avais un petit peu peur de la réaction de mes collègues par rapport à avoir arrivé 5 PD séropositifs, quoi, sachant qu'il y a des... Il nous l'a dit, hein, à la fin du film, pendant le débat. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et lui-même a été, en fait, conquis par les 5 personnages. C'est ça qui est extraordinaire. Lui aussi, c'était... Eux ne connaissaient pas le monde dans lequel ils arrivaient, mais lui, au départ, il ne savait pas à quoi il allait être confronté. Et en fait, je crois qu'il a été conquis, et ce qu'il a le plus conquis, c'est justement la force de caractère, la ténacité de ces 5 hommes qui voulaient aller au bout donc, de ce qu'ils voulaient faire, qu'on peut appeler des combattants ou des héros. Et c'est vrai qu'on a cette sensation de voir des héros. On applaudit des héros et on est fiers. Tu vois, c'est comme, on disait avec Romain qui était ici, qu'on manquait de héros souvent. Et bien là, on a... Ben, on est sous le charme et sous le, l'émotion, et on dit « Ah ben, trop fort quoi !» On les envie presque, on dit « Est-ce que moi j'aurais pu le faire ?» etc. Presque on aurait aimé être à leur place.
Mais Vincent Bougeon, je crois que Vincent Bougeon lui-même avait fait cette démarche-là.
Oui, il avait
fait un propre saut en 2010, crois, pour expérimenter ça. Mais en tout cas, même de manière générale, je pense que les homos sont des héros. Tout ce qu'on se prend sur la gueule, dès l'école, on se prend des insultes, on doit mentir, on doit accepter des trucs homophobes parfois à table, dans les cours d'école, tout ce qu'on se prend dans la gueule, après quand la maladie arrive, quand elle arrive, je trouve qu'on est des héros, sauf qu'on est des héros, mais qu'on le dit pas. Et Vincent Bougeon, il a fait ça.
Ouais.
Moi, je dis bravo.
Ouais. Un très beau film qui sort bientôt
mercredi.
Le 1er avril. Ouais.
Il sort mercredi et au Comédia, puisque voilà, il va sortir au Comédia et on est très heureux puisque ça va être dans un des plus beaux cinémas de la ville.
Ouais.
Très heureux. Donc mercredi prochain, allez en bande, allez en famille, allez avec vos amis, voire vivant. Ça sort mercredi au Comédia.
Très bien.
À Lyon et puis partout en France, bien sûr.
Vraiment y aller. Vraiment, ça.
Vous avez passé une super soirée, c'est un feel good movie.
Plein d'émotions, ouais, voilà, c'est ça.
On se sent bien, on est heureux,
On est content.
On est content, voilà. On a la banane, on est heureux de vivre, et puis on ne voit plus la vie de la même,
c'est vrai, manière. On est différent, comme je disais, quand on sort que quand on entre, après avoir vu ce film de la salle de cinéma. Donc, très vite fait, parce que malheureusement, l'heure tourne, et je voudrais qu'on parle de l'expo de David Bowie, donc actuellement à Paris. Je voudrais juste parler de deux films dont on avait parlé quand tu étais venu avant le festival, que j'ai vu et que j'ai bien aimé, par contre. Bon, qui a une charge émotionnelle moins puissante, quand même, il faut le dire, que Stand ou Vivant. C'est d'abord Le Cercle. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté historique, comme d'habitude. Hein. Et c'est vrai que c'est très bien raconté. C'est une page d'histoire sur donc Der Kreis, qui est le cercle en allemand. Je suis malin, mais je ne parle pas du tout allemand, je le dis tout de suite. Zurich, qui a été donc une ville qui a un peu succédé à Berlin, je dirais, dans le cadre de la vie LGBT d'après-guerre, en fait, où il y avait une grande émulation homosexuelle, et notamment cette association, le cercle, dont on suit les vicissitudes, parce que ça ne s'est pas fait facilement, dans un pays où l'homosexualité, quand même, la Suisse n'était pas criminalisée, pénalisée. Donc, ils avaient quand même pas mal de difficultés aussi à vivre et à avancer. Et on voit donc ce film à travers les deux protagonistes qu'on retrouve
C'est un docu-fiction.
Voilà.
Il y a une partie documentaire et une partie reconstitution.
Voilà, donc il y a la reconstitution, eux, quand ils sont jeunes, dans ce qu'ils ont vécu dans les années 50 avec le cercle, et puis les vrais personnages apparaissent par intermittence, je dirais, pour donner leur éclairage pendant le film. Ce sont les vraies personnes, donc âgées maintenant.
Qui se sont aimés, ils sont aimés pendant quoi, 60 ans ?
Voilà, c'est ça. Une belle histoire d'amour, comme quoi, voilà, hein, ça existe aussi chez les homos, voilà. Chez les homo-hommes. Voilà, il n'y a pas que le sadomasochisme. Puis on peut aimer quelqu'un de sadomaso aussi, hein. Ça peut être de l'amour. Voilà. Donc, San Francisco.
J'ai l'impression qu'il veut nous dire quelque chose.
C'est un message, oui. Que la sexualité a plusieurs facettes. L'homosexualité masculine. Est-ce que vous, les filles, vous êtes plus gentilles ? On vous voit toujours gentilles.
Ah voilà, préjugés.
Voilà.
Voilà.
D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de filles.
Non, elles ont des fessées, on le voit dans la vie d'Adèle.
Voilà. Voilà, parce que voilà, on se dit, les filles, elles sont gentilles de sexualité, bien gentilles, mais toujours, les lesbiennes, c'est ça. Hein. On n'a pas l'impression qu'il y a des lesbiennes sadomaso ou qui font du fist fucking.
Mais bien sûr que si.
Toi, par exemple, tu pourrais nous en parler.
Écoutez, ça ne vous regarde absolument pas. On a déjà parlé du fist avec Romain.
Oui, la dernière fois. Et on avait dit
que
ce n'était pas réservé qu'à un public masculin, le fist, d'ailleurs. On l'avait précisé.
Bref. Et homo,
exact.
Voilà.
Oui, effectivement, c'est une sexualité, enfin, c'est une pratique complètement queer, puisqu'on a tous un point et tous un rectum.
C'est ce qu'on disait. Bon, on va pas refaire le débat sur le fils, puisque je sais qu'il vend, c'est un sujet qui te passionne, mais on va encore...
Pas du tout. Fouetter. Non, juste une parenthèse, il y avait l'auteur du livre Fist, le livre événement, il était à la séance de Johan.
D'accord.
En entier, voilà.
Oui. Et j'ai vu aussi San Francisco 1985. Alors c'est bien sympa aussi. C'est un film. Alors c'est un peu le. Moi ça m'a fait penser à un Looking, tu vois, mais dans les années 85 à San Francisco. C'est à peu près le même style, tu vois. Looking entre parenthèses, j'en ai dit du mal ici. Et la deuxième saison est meilleure que la première. J'ai plus accroché.
Il y aura pas de troisième.
Il paraît, ouais. Ouais,
moi, arrêter. Je n'aime pas du tout, donc.
Ouais, voilà. Eh ben. Mais San Francisco, oui, mais c'est gentil. C'est sûr. San Francisco 1985, c'est un peu le principe où on suit des personnages. Bon, c'est dans un milieu, la danse, donc plus restreint, plus confiné. Moi, j'ai bien aimé quand même les scènes de chorégraphie qui étaient bien liées avec l'histoire et qui donnaient beaucoup de punch au film, en fait.
Effectivement, c'est à la fois un film. Bon, c'est surtout un film sur la danse, hein, on va dire. Ça se passe dans une. Dans une équipe, dans une troupe de danse, il y a un personnage qui est homo et qui se pose des questions sur sa séropositivité, parce qu'à l'époque, bon, bah. Et en 1985, c'est l'année où le test a été mis en place, voilà.
Voilà, donc, c'est ça.
Donc on suit son parcours à lui.
Voilà. Et on suit quand même son angoisse, quand même, à l'attente de résultats. Est-ce que ces résultats vont venir positifs, négatifs? Il y a quand même une tension. Mais c'est vrai que c'est filmé de façon assez linéaire, assez. Voilà, c'est un film tout public, je dirais.
Hein. Il va sortir bientôt.
Ouais, sauf qu'il y a les scènes de chorégraphie, il faut apprécier la danse quand même, ce qui est mon cas.
Danse contemporaine.
Voilà, danse contemporaine. Bah, c'est bien, très bien.
Il y a des beaux mecs, il y a de la danse contemporaine.
Non, non, mais c'est bien, c'est très honorable.
Il sort le 18 mars, il est sorti le 25 mars, je sais plus. Façon, aujourd'hui, peut-être.
De toute façon, si ça n'avait pas été bien, Yvan, il n'aurait pas été présenté à écran mixte, on est d'accord.
Oui,
voilà.
Mais vous savez,
il avait quand même un intérêt.
Il en faut pour tout le monde. Oui, oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Il en faut pour tous les
groupes. Oui. On défend les œuvres, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Mais le cercle, je reviens au cercle, c'est très bien. Hein, l'histoire suisse, l'association suisse, le petit couple qu'on voit bien sympathique à travers l'histoire de l'association, c'est très bien. Bah, c'est... Sur un plan historique, c'est très bien fait. Ça prend beaucoup de choses. C'est vraiment. Ça se laisse regarder avec beaucoup de plaisir.
Moi, je trouve que c'est un film très important.
Oui, bah oui.
Parce qu'il parle d'un sujet qu'on a jamais, dont on n'a jamais parlé. Ouais. Et puis, ça parle de notre mémoire collective. Mmh. Parce que le Cercle, ça a été la première association européenne. Ouais. Et aussi le premier magazine.
Enfin, ça a été la première association européenne après, après les années... après la République de Weimar à Berlin. C'est vrai qu'eux, après, on... En plus, ils avaient une publication en allemand, en français, en anglais. Comme ils étaient en Suisse, ils publiaient aussi en français.
Et c'est un partenariat avec le Goethe-Institut, le Cercle. On est très contents. Parce qu'il y avait même le directeur du Goethe-Institut de Lyon qui est venu voir le Cercle Comédia, qui a dit quelques mots. Et on est très contents d'être soutenus aussi par les grosses institutions comme ça, culturelles. Et on aimerait le développer avec les Latinos, avec les Espagnols. Voilà. Ça serait super.
Mais bon, comme l'écran mixte a une longue vie devant lui, on suppose qu'il va se passer encore plein de choses. Alors justement, pour les filles, parce qu'il y avait quand même des choses pour les filles. Après, on parlera de Bowie parce que.
Alors,
les filles coincées, tu sais, juste à la fin. Vous c'est pour faire le quota lesbien de l'émission.
C'est ça.
Vous savez, le problème qu'on a, il y a peu de fiction lesbienne. Il faut dire la vérité. Par contre, cette année, donc, on en a quand même passé. Alors, quand on n'a pas de fiction lesbienne, on essaie quand même de passer des films réalisés par des femmes. Bon. Et là, il y avait quand même des très beaux documentaires cette année. Des documentaires assez exceptionnel qu'on est très fiers d'avoir montré, notamment un grand long métrage documentaire sur Suzanne Sontag que c'est Vito Molio de la Bibliothèque municipale de Lyon du point G a sous-titré, première française. Donc on a passé vraiment on a passé aussi un documentaire sur les Riot Girls, on a passé un documentaire sur DJ Sextoy. Donc on a vraiment essayé de pallier le manque de fiction par des documentaires percutants, super bons quoi. En plus réalisés par des femmes.
À Écran Mixte, il y a quand même eu de grandes séances lesbiennes. Dans le passé.
Il y a eu Bye Bye Blondie en présence de Virginie Despentes. Sinon, c'est toujours le
c'est
même
difficile,
problème.
C'est difficile, de trouver vraiment des.
Il y a eu l'excellent Concussion.
Concussion l'année dernière, c'est vrai. De Mère.
Oui.
Anna Margarita Albello, La Chocha, quand même.
Ouais. Qui a peur de Vagina Wolf.
Voilà, tout de même. Oui.
L'extraordinaire film espagnol dont j'ai oublié le titre.
Oui.
Tu te rappelles cette femme mariée
80 jours.
Qui 80 jours, qui retrouve une amour d'enfant, d'adolescence, qui était donc une femme. Elle s'est mariée, chacune ont suivi un parcours différent. Elle est restée dans sa sexualité de femme lesbienne, et puis l'autre femme s'est mariée, etc. Et puis soudain, elle se retrouve. Ça avait été une belle découverte, écran mixte.
Ah, c'était une merveille.
Ah oui. Ah oui, un film extraordinaire.
Ah ouais. Mais on travaille, hein. Nous, on essaie de rétablir quand même une visibilité et puis aussi une sorte d'égalité, mais une visibilité. Oui. Il faut absolument qu'il y ait de. Et là, alors, on est très content d'avoir offert au public LGBT le plus beau cinéma de la ville et de leur avoir offert un beau festival. D'habitude, les festivals LGBT, c'est toujours dans des petites salles. dans des rues sombres, là, pleine lumière, tapis rouge pour les spectateurs, les spectatrices.
Où on va au péril de sa vie.
C'est important de se sentir bien dans un festival LGBT aussi. Et de se sentir bien dans une salle mixte où il peut y avoir des instructeurs en parachutisme, où il peut y avoir des directeurs d'institutions, où il peut y avoir plein de. Ça qui est important.
Et écran mixte, c'est vrai aussi, on le rappellera peut-être jamais assez, mais c'est beaucoup de travail toute l'année, et des bénévoles, etc. Donc c'est,
voilà, oui, c'est une équipe, oui.
Pour arriver à un résultat pareil, il faut beaucoup. Mouiller la chemise.
Là, on a deux personnes qui vont partir à Cannes, partir à la recherche des films, faire des contacts, et ensuite on va vous ramener des belles choses.
Très bien. Alors, pour terminer, parce que l'émission tourne, on voulait en parler un petit peu quand même. Tu as profité donc d'être à Paris pour présenter Johan, comme tu disais lundi soir au Brady. Tu en as profité pour aller également voir l'exposition qui se tient jusqu'au mois de mai.
31 mai.
Jusqu'au 31 mai, donc à la Philharmonie de Paris.
David Bowie is.
Voilà.
Très beau titre, David Bowie is. Mais il est quoi?
Voilà.
Justement, on ne sait pas.
Et en fait, il y a plein de choses.
Voilà. En fait, c'est chacun qui
cette exposition vaut la peine d'être vue.
C'est une exposition extraordinaire.
Multimédia, tu
disais. C'est une exposition multimédia extraordinaire. Moi-même, je suis encore un peu sous le choc. Vraiment.
D'accord.
C'est une expérience.
Bon, on sait aussi que tu es un fanatique de David Bowie.
Oui.
Ce en quoi nous ne pouvons pas te le reprocher, évidemment. On peut pas te reprocher.
Je pense que c'est un puits sans fond. Ouais. Il y a même des albums que j'ai toujours pas réussi à gratter toutes les couches. Mais c'est une expérience unique. En fait, c'est une exposition multimédia. C'est à la fois des installations et à la fois des expositions d'objets. Donc c'est extraordinaire. Donc déjà dans l'exposition, donc on nous met un casque dans les oreilles et ça va être une immersion totale dans les univers de Bowie, toutes ses influences. Il nous parle à l'oreille, on entend ses chansons. Par exemple, si on s'approche d'un manuscrit, c'est très émouvant de voir des manuscrits de chansons qu'on connaît par cœur. Quand tu t'approches du manuscrit, t'as la chanson qui arrive aux oreilles, tu changes, c'est vraiment extraordinaire. Et donc on est tous un peu déconnectés les uns des autres, on est chacun, parce que c'est un univers très introspectif, David Bowie. C'est pas quelque chose qui se partage énormément. C'est lié à l'angoisse, c'est lié aux mondes intérieurs, à la science-fiction, à la schizophrénie, à la psychanalyse. Et donc on est vraiment et donc très souvent on se rentrait les uns dans les autres parce qu'on était tous en train de planer.
Ouais.
Et donc l'exposition est organisée sous manière de pièces, de blocs, d'installations. Par rapport à différentes périodes et aussi par rapport aussi à certaines chansons emblématiques.
Ouais.
Par exemple, la chanson Starman qu'on a entendue est une chanson très importante dans l'histoire de toute la jeunesse anglaise de cette époque-là, puisque il y a eu un passage télé qui a été révolutionnaire. La première fois qu'on a vu Ziggy Stardust à la télé, c'était à l'émission Top of the Pop. C'était l'époque où tous les Anglais avaient une télé couleur chez eux. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de bonhomme, cheveux rouges en l'air, dans une tenue japonaise, qui chante une chanson Garçon des étoiles, en tenant par le bras son guitariste, dans une gestuelle complètement homoérotique. Et là, il va pointer du doigt la caméra, le spectateur, et là, il dit, en gros, je cherche quelqu'un comme toi. Et là, c'est tous les jeunes, tous ceux qui sentaient différents, tous les jeunes homos, tous les jeunes un peu décalés, ils ont pris ça dans la gueule. Mmh. Ils se sont dit, lui, c'est pas notre messie, mais il est ce que nous pouvons être.
Mais c'est vrai qu'il assurait une visibilité, ça a été l'artiste qui a assuré la plus forte visibilité, je dirais, à son époque, à, on va dire, l'homosexualité, puisqu'il était, de toute façon, on disait qu'il était homo à l'époque. Tout le monde disait il était PD. Hein.
Alors,
David Bowie, c'est un PD.
Lui-même, il a dit, je suis homosexuel, alors qu'il ne l'était pas vraiment.
Ouais.
Il avait une femme et des gosses, mais il a dit « je suis homosexuel, j'ai toujours été ». Mais en fait, il prenait plutôt une non-sexualité. C'est un alien, c'est quelqu'un de non défini. Et c'est la première fois qu'on voyait ça.
C'est vrai que les premiers artistes qu'on a vus travestis, par exemple, vraiment grand artiste, hein, c'était lui, David Bowie. On parlait justement de la pochette de l'album de Man Who Sold the World, je crois, où se trouve The Man Who Sold the World, où il est dans une robe, mais d'une robe masculine.
Dans une robe pour homme.
Taillée pour un homme.
Il a les cheveux longs, allongés sur un canapé. Avec les robes.
Voilà. Et en même temps, comment dire, David Bowie, c'est quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'au niveau de sa sexualité, il est passé du statut d'homosexuel à bisexuel. Dans les années 80, ça a bougé un petit peu. On a dit, ça y est, il est bisexuel. Bon, il y a eu aussi sa période berlinoise, très importante.
Alors, justement, donc, ce sont des grands blocs, des grandes installations avec des chansons phares, notamment Space Oddity. Il y a toute une pièce dédiée à Space Oddity où tu es vraiment en train de flotter dans l'espace.
Ouais.
C'est extraordinaire. Tu as le clip et puis tu as une grosse lune comme ça qui.
Space Oddity, la seule chanson, tu n'as pas besoin de prendre de psychan. temps de substances psychotropes pour planer. Tu écoutes la chanson sans rien d'autre.
Tu fermes les yeux puis t'es
dans l'espace. Ah oui, tu planes, t'es dans une espèce de...
Et donc, tu vois aussi des objets, ce sont que des objets liés à l'activité artistique de David Bowie. Des objets aussi qui l'ont énormément influencé, que ce soit dans le domaine de la littérature, du théâtre, de la psychanalyse, de la philosophie, de la peinture. On voit aussi des œuvres de peintres de David Bowie, de magnifiques portraits notamment d'Iggy Pop qu'il a fait. Et donc il y a toutes ces œuvres qui l'ont influencé, et il y a aussi une exposition de tout ce que lui, il a apporté au monde, et on se rend compte que c'est l'artiste du siècle. C'est-à-dire il a ingurgité tout ce que le XXe siècle avait créé en matière de théâtre d'avant-garde, de mode, de création visuelle, et aussi de manipulation des médias et des masses, pour régurgiter quelque chose d'autre qui a influencé, et son influence, elle est absolument inimaginable et gigantesque. Et on ressort de cette exposition complètement ouais. bouleversé.
Il faudra rappeler Bowie, c'est aussi une voix unique, je dirais, et puis une musique qui a évolué, mais aussi qui a des... Sa musique est unique en même temps, il y a tellement d'inspirations différentes à l'intérieur. Il a su prendre par exemple le blues et en faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de basses blues, hein, surtout dans ses débuts.
Et soul.
Et soul, tout à fait. Ouais, ouais.
Beaucoup de basses soul, blues.
Est-ce qu'il n'est pas le premier blanc justement à avoir passé la fameuse émission soul et blues
Soul Train.
The Soul Train, voilà. Aux États-Unis. Qui était réservé qu'aux blacks.
C'est le premier blanc à être invité dans cette émission culte qui s'appelle Soul Train, qui était uniquement dédiée à la soul black. Et lui, il est arrivé avec Young Americans, qui est un album soul qui l'a défini lui-même de plastic soul, c'est-à-dire de plastique blanc, de soul blanc. David Bowie, c'est un passeur, on le sait, c'est un prisme, il y a tout qui passe à travers lui. Regurgite une création. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment est-ce qu'il s'est inspiré du théâtre allemand, du cinéma expressionnisme,
du Japon aussi,
de la culture effectivement japonaise, qui est très 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 forte. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on voit les créations de Yamamoto, de Kansai Yamamoto, et aussi d'Alexander McQueen, qui faisait aussi les robes de Björk dans les années 90. Ouais.
Donc il y a des costumes,
des costumes de scène.
Tout sa mise en scène dans une féerie, je dirais, auditive et visuelle.
C'est une hallucination, et puis c'est planant.
Donc il faut y aller.
Ah ben oui, c'est
même si on n'aime pas particulièrement, enfin si on n'est pas, on peut pas ne pas aimer David Bowie, c'est impossible. Mais si on n'est pas vraiment dans son univers, ça vaut le coup quand même de.
Ah ben oui, parce qu'on voit en quoi est-ce que c'est l'artiste du siècle. Voilà. Donc c'est déjà intéressant.
Voilà, parce que ça n'existe pas les gens qui n'aiment pas David Bowie.
On aime toujours une ou deux chansonnettes, une ou deux tubes, mais il faut y aller. Oui.
Faut dire qu'il y a
J'ai peur que ça existe, mais dans ce cas-là, ce sont des gens qui n'y connaissent rien.
Puis il y a aussi plusieurs. Il y a tellement des périodes comme Picasso, sa période bleue, etc. Lui, il y a tellement de périodes qu'on peut aimer une période plus que d'autres. Moi, je préfère la période Ziggy Stardust à celle de l'album Let's Dance par exemple, etc.
Vous avez beaucoup de fans de Bowie.
Voilà. Bon. Bien. Et bien justement, on va s'envoyer David Bowie, si j'ose dire. Et donc l'exposition, c'est jusqu'au 31 mai à la Philharmonique de Paris. L'occasion de voir le nouveau bâtiment d'ailleurs de la Philharmonie de Paris.
C'est dans le nouveau bâtiment.
C'est dans le nouveau bâtiment. Et voilà, on va s'écouter Absolute Beginners, je crois.
Qui est une de mes chansons préférées.
Moi aussi.
Voilà.
Une des rares chansons d'amour de Bowie. Ouais. Il en a écrit très très peu.
Qu'est-ce qu'elle déchire, cette chanson?
Elle déchire. Elle pète sa race, comme on dit. À la semaine prochaine.
Bisous, bisous.
Bisous à tous.
Bonsoir.
Au revoir, Yvan. Merci d'être venu. Go to hell.